France Inter.
Je suis assez émue de recevoir pour la deuxième fois de ma vie l'écrivain et scénariste Tonino Benacquista, car c'est lui qui fut le premier invité de mon émission Remède à la mélancolie il y a au moins 12 ans. J'avais le trac, je l'ai fait parler de son goût pour les t-shirts imprimés à l'effigie de ses amis beaucoup trop longtemps, et il fut d'une épatante gentillesse et patience. L'auteur de La Maldonne des Sleepings, La Commedia des Ratés, Saga, Malavita, Porca Miseria, ou encore de la bande dessinée L'Outre-Mangeur illustrée par Jacques Ferrandez, où Dieu n'a pas réponse à tout, illustré par Nicolas Barral, a aussi imaginé une pièce de théâtre avec Rufus, scénarisé des Lucky Luke avec Daniel Pénac, ou coécrit des scénarios primés pour Jacques Audiard, comme Sur mes lèvres, et de battre, mon cœur s'est arrêté. Vous avez vu la longueur de cette phrase, c'était pratiquement du Proust, mais sans le talent. Son premier roman noir s'intitulait « Épinglé comme une pin-up dans un placard de D.I. » et sa pièce « Un contrat western psychanalytique en deux actes et un épilogue. Bien qu'il fréquente souvent la série noire, il fait paraître son nouveau roman dans la collection Blanche de Gallimard sous le titre « Tiré de faits irréels », une satire du monde littéraire vue à travers le regard de Bertrand Dumas, éditeur sur le point de déposer le bilan de sa maison d'édition et cherchant fébrilement à la sauver. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Tonino Benacquista. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
C'était il y a 12 ans, quand on a fait cette émission.
Ah oui, j'imagine.
C'était la dernière fois que j'ai été enthousiasmé.
J'imagine que vous avez traversé une longue période de mélancolie.
Exactement,
depuis.
Et ça c'est j'ai un très bon souvenir. Je ne me souvenais pas de l'année, mais
2013.
J'ai un très bon souvenir de cette émission. Voilà, ça a été enthousiasmant.
Bah moi aussi. Voilà. Et merci d'avoir accepté d'être mon premier invité.
Ah oui, écoutez, mais que de chemin parcouru depuis.
Oui, mais là on est là pour parler de vous. Alors, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que bon, vous êtes d'origine italienne, ça tout le monde le sait. Vous êtes le seul de vos frères et sœurs à être né en France. L'Italie apparaît dans vos romans, parfois dans les titres, parfois dans les intrigues. Mais vous avez un rapport à l'Italie ambivalent. Vous dites que vous préférez la distance des Anglais.
Oh là, oui, j'ai dû dire ça il y a longtemps.
En 93, souvenez-vous.
Mais en 93, oui, j'adorais les Anglais, ouais. Mais oui, c'est vrai, il y a cette espèce de familiarité, moi, qui m'a toujours un peu dérangé, mais c'est sans doute parce que j'étais né en France, quoi, et que mes frères et sœurs étaient italiens, et donc, etc. Mais bon, je me suis vraiment largement réconcilié avec l'Italie maintenant.
Le seul rapport qu'a jamais eu votre père avec un livre, selon vous, c'est quand il était soldat en Albanie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait plus de tabac, et il l'a fumé, le livre.
Il a fumé le livre. Si, il y avait du tabac, mais il n'y avait pas de papier.
Ah oui.
Donc il a découpé en lamelles un bouquin qui était, dit-il, écrit en grec, mais j'ai pas pu... On a tout imaginé tout un tas de bouquins. On a imaginé que c'était Platon. Bon. Mais en fait, il l'a fumé intégralement. Ça lui a duré toute la guerre. Et puis je me souviens, quand mon premier bouquin est sorti, on m'a dit non, ne lui donne pas, il va peut-être le fumer ou quoi. Mais c'est vrai, il l'a vraiment fumé. Hein.
Vous avez grandi à Vitry-sur-Seine. Chez vous, il n'y avait pas de livre, à part peut-être une Bible.
Ouais, et encore. Hein.
Vous êtes
franchement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Non, j'avais une sœur qui cachait quelques livres dans un coin qui était. C'était la sœur brillante, quoi. C'était la sœur surdouée. Et elle lisait. Mais elle lisait les trucs un peu à la mode à l'époque. Anne Suyin, Bromfeld, des gens comme ça. Je me souviens plutôt de la collection J'ai lu. Mais elle a jamais cherché à nous faire partager son goût pour la lecture. Et moi, je n'ai jamais eu de goût pour la lecture jusque très tard.
Oui, d'ailleurs, vous dites que c'est pas du tout inné. Enfin, c'est une légende de dire que les enfants ont un goût pour la lecture. Vous, c'est venu après le goût pour l'écriture.
Oui, longtemps après. Ouais, j'ai lu le goût pour la lecture. Là, maintenant, ça y est, je suis devenu un lecteur acharné, quoi. Mais je rattrape le temps perdu. C'est-à-dire, je lis tout ce que j'aurais dû lire plus jeune. Mais franchement, cette fascination pour la lecture m'est venue, je devais avoir 40 ans. Non, j'ai beaucoup écrit avant, mais après je peux rentrer dans le détail pourquoi écrire avant de lire, etc.
Bon, bah oui, compliqué. Au moins vous n'avez pas été influencé par d'autres plumes.
Non, mais c'est vrai que les auteurs de séries noires, oui, il y en a quelques-uns, bon, effectivement.
Alors lesquels ?
Oh bah voilà, moi je suis tombé amoureux de cette collection noir et jaune. Et effectivement, Chandler et Ahmet ont été voilà,
ils m'ont
puis quelques Carter Brand et des trucs comme ça quoi.
Donc des
c'était pas de la lecture
comme vous l'imaginiez.
Non non, mais je veux dire je dévorais pas les livres du tout quoi, voilà, mais parce qu'il fallait écrire d'abord.
Mais Chandler, c'est un style très littéraire, c'est de la littérature.
Très, très. C'est très exigeant. Maintenant, je ne sais même pas ce que donnerait aujourd'hui la lecture de Chandler, ce qu'elle veut dire. Si... Je ne sais pas. On considérerait sans doute que c'est un auteur très littéraire et très exigeant, ce qui n'était pas le cas au moment où il existe, au moment où il écrit ses Marlowe.
Pourquoi, à votre avis ?
C'était de la littérature de gare à l'époque.
Ouais, aujourd'hui, c'est fou de se dire
aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, c'est voilà, on considère que ce sont des chefs-d'œuvre.
Mais comme Lovecraft qui vient d'entrer en Pléiade. Mais
par exemple, oui, bah ça, on peut en citer beaucoup qui viennent de la culture populaire, qui viennent du et qui il aura fallu 40 ans. Et parfois l'inverse, d'ailleurs, des bouquins qui étaient ultra cotés. Moi, je me souviens, voilà, dans les années 80, etc. On se dit, voilà, chef-d'œuvre. Aujourd'hui, bah voilà, j'ai fait l'expérience avec Au-dessous du volcan il y a pas longtemps.
De Malcolm Lowry.
Ouais.
Et alors ?
Mais alors, à l'époque, c'était donc dans les années 80, quand il sort chez Christian Bourgon. Enfin non, il était sorti dans les années 50, mais j'ai essayé de. Je l'ai lu à l'époque, je m'étais arrêté très vite parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop exigeant, trop compliqué. Et je me suis dit, voilà, à 60 ans, je vais me réattaquer. Je vais savoir s'il résiste encore, je veux comprendre pourquoi, en fait. Et donc, je l'ai lu à travers deux traductions. J'ai dû lutter. Il y a des moments qui sont très enthousiasmants, d'autres beaucoup moins. Et puis, je suis retourné voir tous les gens qui en pleuraient de stupéfaction à l'époque et qui m'ont dit, mais j'ai jamais terminé ce bouquin. Mais il fallait aimer Au-dessous du volcan dans les années 80.
Et moi, j'ai offert L'homme des de Luc Reinhardt à tout le monde. Et une fois, une personne m'a dit que ça avait vieilli. Et je comprends pourquoi on me l'a dit. Mais bon, ça reste un meilleur
préféré. Laurie reste un génie. Hein. Enfin, je veux dire, attention. Attention. Mais voilà, c'est pas le même discours aujourd'hui.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
The Prisoner, starring Patrick McGoohan.
Friend of yours? You knew him?
No.
You're crying.
Funerals make me emotional.
Even those are people you don't know.
Northern area, number 6, heading for outer zone in our vehicle. Orange alert.
Escape or capture? Watch this exciting adventure of the prisoner.
Tonino Benacquista, votre pratique de l'écriture a été influencée par la télévision et notamment par la série Le Prisonnier, découverte vers 7 ans.
Bah, je crois au moment de sa sortie, ouais, je crois que c'est 68, Le Prisonnier. Donc oui, c'est ça, 7 ans, oui.
Et en quoi ça vous a influencé ?
Influencé, en tout cas, pas pour l'écriture en soi, mais pour la fabrication de fiction, oui. C'est-à-dire le désir de fiction, parce que moi je voulais pas être écrivain, c'était pas ça. Je voulais fabriquer de la fiction, c'était ça au départ, et sous des formes très différentes.
Et pourquoi, quel était votre rapport avec le réel ? Vous le fuyez ?
Ah mais il est toujours très compliqué quand même le
bah
rapport
oui,
avec
il a une sale gueule le réel quand même.
C'est là où on se cogne, comme disait oui. Lacan. Mais oui, enfin là, alors là, si on peut parler du réel, hein, si vous voulez.
Si vous voulez, comme vous voulez, mais on peut parler de l'imaginaire.
Mais j'essaye de le fréquenter le moins possible.
Ah bah, je vous comprends.
Les 30 dernières années, j'ai réussi. Bon, de temps en temps, on est obligé de s'y confronter, oui. mais quand même, j'arrive à le contourner facilement. Quant à Patrick McGoohan et Le Prisonnier, là, c'est juste, comment dire, une épiphanie d'enfant, quoi. C'est, à un moment donné, il y a un truc, la découverte. Il y a un personnage qui est prisonnier en permanence dans un lieu impensable. Bon. Une espèce de cauchemar, plutôt agréable, comme ça. Et le truc, c'est que l'enfant regarde et se dit « Mais ce prisonnier ne sortira jamais de ce village cauchemardesque. » Et petit à petit, au bout de 2, 3, 4 épisodes, il se dit « Mais non, le prisonnier est un résistant. » Et là, hop, on change complètement de vision.
Oui, parce que pour vous, vous vous êtes rendu compte que le héros n'est pas celui qui sortait vainqueur, mais celui qui résistait.
Ouais, en tout cas, là, c'est son cas. Et c'est ce que nous dit cette série. Mais revoyez-la aujourd'hui, ça reste un ovni. Ça reste un truc qui n'a rien à voir avec rien. C'est ex nihilo.
Et Columbo, alors ?
Columbo, non, Columbo, c'est... Là aussi, là, quand un jour on se dit qu'on va écrire des polars ou quoi, bon, j'étais encore un peu jeune pour imaginer ça, commencer par le meurtre, c'était quelque chose de formidable. Ça apporte un nom d'ailleurs chez les auteurs de polars. On commence par le meurtre et puis on sait qui a tué, etc. Ça, c'était un cas de figure criminelle qui était pas mal. Et puis le personnage était. C'est cette façon de faire se rencontrer un acteur et un rôle, je pense qu'à ce point-là, cette osmose a été assez rare. C'est Peter Falk et Columbo. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard que Cazavetes et Ben Gazzara avaient été auditionnés pour le même rôle.
Ah.
Et que c'est Peter Falk qui l'a emporté.
Vous avez débuté une fac de cinéma que vous avez arrêtée pour écrire. Vous avez fait plusieurs petits boulots qui vous ont servi de documentation pour des livres, comme accompagnateur à la compagnie des wagons-lits pour la Maldonne des Sleeping, et accrocheur de tableaux aussi, ou des petits boulots en galerie d'art pour Trois carrés rouges sur fond noir.
Ben oui, parce que c'était, moi, très jeune, j'avais pris cette... on a parlé de la série noire. Moi, je me disais, voilà, il faut que... Voilà, je n'aurais de cesse qu'un jour de publier un bouquin en série noire. J'avais 17-18 ans. Peut-être que moi, je me disais que, chose faite, ma vie ne serait qu'une espèce de déclin, donc, après la série noire. Parce que le but était atteint, quoi, en fait. Bon, c'est arrivé très vite, il se trouve. Mais il fallait quand même trouver des jobs qui me laissaient le temps d'écrire, quoi. C'était ça, le truc. C'est-à-dire, il fallait que je trouve des jobs un peu décalés, parce que... On a un plein temps, on rentre le soir, on se met à écrire son bouquin. Enfin, moi, j'aurais pas eu cette énergie ou ce courage. Par contre, accompagnateur wagon-lit, ça, c'était parfait. Et puis, deux semaines d'accrochage dans un musée. Voilà, après, on avait 2 mois de récupération. Donc, j'écrivais mon bouquin, voilà. Puis après, j'ai été parasite mondain, comme je me plais à le dire. Et puis, j'ai fait quelques jobs comme ça, mais qui me laissaient à chaque fois le temps d'écrire. Je les choisissais parce que j'avais le temps. Enfin, qui me laissait le temps par ailleurs.
Vous êtes d'abord allé vers le roman noir, puisque le premier roman dans la collection blanche, c'était Malavita en 2004. Et vous dites que le roman noir, c'est un roman d'urgence. Que pour vous, il n'y a pas d'angoisse de la page noire.
Non, il n'y a pas d'angoisse. J'étais content de ça.
Oui, c'est pas mal.
Non, il n'y a pas d'angoisse de la page noire, parce que quand on écrit un polar, d'une certaine manière, on est débarrassé de la littérature, en tout cas de l'idée de littérature. C'est-à-dire, ça n'est pas un acte sacré ni inhibant. Que de commencer un polar, même si le style, l'intensité et l'exigence sont là, mais ça n'est pas ce qui motive d'abord un auteur de polar ou quelqu'un qui écrit et de l'urgence, parce que on est dans le drame immédiatement, tout de suite dans le drame. Et il s'agit de ce drame, il s'agit de le décrire, il y a des mystères, il y a des portes à ouvrir, des placards, des tiroirs, faut dépoussiérer des vérités un peu cachées, etc. Tout ça, il y a forcément de l'investigation et tout ça est dramaturgiquement urgent.
Et on peut rire aussi, il n'y a pas que du drame. Je pense à Jim Thompson, je pense à Manchette.
Ah oui, mais ça c'est, bien sûr que oui, mais adopter ce ton de comédie, ou en tout cas de dérision ou d'ironie, ça n'exclut pas la gravité du sujet. Sauf que, voilà, ça, cet humour qu'il y avait de Chandler, cette dérision, mais dans un sens plutôt noble, hein, pas désabusé. Là, c'était d'une élégance folle, et celle qu'on doit au lecteur d'ailleurs.
Comment ça, celle qu'on doit au lecteur ?
Mais parce que je crois qu'il faut, d'une certaine manière, le débarrasser de l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux, pour le lecteur, c'est terrible. Enfin, moi, je sais pas, j'essaie de garder dans ce que je fais une espèce de tonalité qui serait de l'ordre, justement, de la comédie. Ça ne m'empêche pas de raconter tout ce que j'ai à raconter. Mais pas de manière plombée, quoi.
Ah bah non, parce que d'ailleurs, dans Tiré de faits irréels, on commence tout de suite par un drame, puisque le héros, c'est Bertrand Dumas, il a les éditions qui portent son nom, Bertrand Dumas éditeur. Mmh. Il est en cessation de paiement depuis 2 ans, il a rendez-vous le lendemain au tribunal de commerce pour liquider sa maison d'édition.
Bien sûr.
Et il y a cette réflexion, j'ai passé l'essentiel des 40 dernières années hors du monde tangible. Moi, j'ai pensé à vous, Tonino Benacquista.
Oui. Par certains côtés, cet éditeur me ressemble, oui.
Où il est, il y a peut-être une mosaïque de plusieurs éditeurs que vous avez interrogés, puisqu'à la fin, on voit que vous en remerciez plusieurs.
Bah oui, bien sûr, parce que c'est un job... Non, mais de toute façon, alors là, je suis d'accord avec lui souvent, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que jamais je n'aurais pu devenir éditeur.
Pourquoi ?
Ah non, jamais.
Pourquoi ?
Ça, c'est le dernier boulot au monde que j'aurais pu faire.
Parce que vous auriez lu trop de mauvais manuscrits, vous n'auriez pas supporté vos confrères ?
Non, c'est que d'abord, pour moi, un manuscrit, c'est un objet en devenir. C'est comme les miens, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'en a jamais fini avec un manuscrit. Pour moi, quand ça n'est pas imprimé, je n'y crois pas. C'est pas de la littérature. Faut que ça devienne un livre pour que j'y croie. Et là, je fais confiance à tous ces éditeurs que je cite, où là, alors, franchement, ils ne sont pas du tout impressionnés par ça. Ils peuvent lire sur n'importe quel support, n'importe quoi, n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Voilà, moi, il y a peut-être aussi une affaire d'ego. Peut-être j'ai trop d'ego pour lire les bouquins de mes confrères. Mais en tout cas, non, j'aurais raté L'étranger sur manuscrit, je pense. L'étranger de Camus,
Il y a beaucoup de livres qui ont été ratés par des éditeurs.
J'aurais raté L'étranger pour penser aujourd'hui que c'est un des bouquins majeurs que j'ai lu dans ma vie. Mais sur manuscrit, je ne sais pas.
Ce qui est intéressant, c'est que vous soulevez à peu près toutes les opinions qu'on peut avoir sur la littérature et sur le milieu littéraire de façon aussi drôle que déprimante. Et je pense par exemple à l'éditeur qui se sent face à son banquier comme un résidu fossile de l'ère Gutenberg et un peu plus loin qui s'exclame « Je n'ai pas su anticiper ma propre obsolescence, que n'ai-je suivi naguère un stage de management au lieu de lire Goethe ?» Ça, c'est un peu le monde dans lequel on vit.
Oui. Bah, il fait ce constat-là, ouais. Enfin, c'est un peu un dinosaure, quoi. Mais il y croit encore.
C'est la faillite de la culture dans un monde d'argent, quand même.
Ouais, ça fait partie des symptômes, hein. Ça fait partie des diagnostics, plutôt. Il s'interroge pendant tout le bouquin, pour savoir pourquoi on ne veut plus de ses livres. Pourquoi ces propositions à lui, on n'en veut plus. Et alors qu'il y a 10 000 fois plus de livres qui sortent aujourd'hui que quand il a commencé à être éditeur. Et donc, il est quand même amer, quoi. Pourquoi pas les miens, quoi? Pourquoi on veut plus des miens? Et il va passer tout le bouquin à essayer de comprendre. À la fin, il a quelques éléments de réponse. Mais, et c'est ça qui, et ça c'est peut-être l'auteur de Polar en moi qui s'exprime, mais il convoque le romanesque. Et ça, c'était important. C'est-à-dire, dès les premières pages, il dit romanesque, moi qui t'ai tant servi. Là, tu peux, viens moi en aide, donne-moi un coup de main d'ici demain matin. Et effectivement, il va y avoir une nuit un peu compliquée et pittoresque. Et va-t-il sauver la boutique ou pas?
Ça, je ne le dis pas, bien évidemment, mais je rappelle tout de même que vous avez publié un livre qui s'appelle Romanesque et que vous interrogez la notion depuis des décennies.
Oui. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire c'est un de mes thèmes, quoi. C'est-à-dire la part de fiction dans nos vies, la part de romanesque dans tous les sens du terme, et comment est-ce que par moment on s'en remet à la fiction. Moi, je fais ça depuis, voilà, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Saga, où on fabrique, voilà, il y a 4 scénaristes un peu à la ramasse qui fabriquent...
Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Oui, et qui fabriquent voilà, mais en même temps, la synergie de leurs idées fait que... À un moment donné, on s'en remet au romanesque, et pourquoi on en a besoin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de fiction, etc. etc. Et c'est vrai que je reviens souvent là-dessus.
À un moment, il y a cette réflexion justement de l'éditeur, de tirer de faits irréels. Je réalise soudain ce que je sais depuis toujours, ma vie est la moins romanesque du monde. J'en arrive parfois à me demander si mon insatiable besoin de m'insinuer dans des univers de fiction n'est pas celui d'un être si peu doué pour la vie réelle et les opportunités que parfois elle offre. Vous l'avez déjà pensé, ça, vous
oui,
concernant?
Oui, bien sûr.
Vous connaissez la réponse en vous posant
la
question.
Oui, bien sûr, mais... mais en même temps, c'est romanesque aussi de travailler à ce qu'on... Enfin, comment dire, se lever le matin pour faire ce qu'on aime le plus au monde. Bon, voilà. Alors, même si on n'a pas des vies exaltantes, ben, il y a quand même ça qui est pas mal.
Et puis, l'imaginaire, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus exaltant. À un moment, il y a une scène assez drôlatique où vous imaginez justement une orgie de livres dans la salle qu'on appelle les limbes ou le purgatoire, selon les maisons d'édition. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous lire l'extrait? Parce que c'est, en gros, d'abord, pouvez-vous remettre en contexte ce lieu?
Bah, oui, c'est-à-dire que y a un lieu où on entasse les manuscrits refusés, quoi. Alors, ce lieu existe beaucoup moins matériellement, physiquement, aujourd'hui, chez les éditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'envois qui sont faits par mail, par fichier, etc. Mais cette salle continue d'exister. Et donc, là, c'est vrai qu'il ferme sa maison d'édition, et puis il dépose les derniers manuscrits. Et puis, il y a cette salle où il y a tous les refusés, quoi. Et il y a quelque chose de profondément injuste. Et donc, lui quitte avec une certaine nostalgie cette salle. Il se sent un peu coupable, d'ailleurs, de l'avoir tant alimenté avec tant de refus. Mais il se dit que, quand même, tous ces personnages, peut-être, continuent à avoir une existence. Dès qu'on éteint la lumière, on ferme la porte de cette salle des refusés, peut-être il se passe des trucs. Et c'est là où il dit, donc, une fois rejetés, ils exigent de rester entre eux pour vivre leur frénésie romanesque en toute impunité et se vautrer dans une orgie de fiction, affranchis du devoir d'exemplarité littéraire, ravis de paraître si peu crédibles au contremaître de l'excellence, préservés de toute tentation sublime, libres de s'accomplir en toute médiocrité, de s'exprimer comme bon leur semble, de conchier le vocabulaire choisi et le bon usage, de s'autoriser les barbarismes et les anglicismes. Fuck you, Grévis, fuck you, Becherel. Ici, ils se montrent tels qu'ils sont, volontiers décevants, géniards, sans emphase, malveillants sans envergure. Ce en quoi ne serions-nous pas, nous, bien plus que les classiques, le véritable reflet de vous autres humains.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Tonino Benacquista, vous publiez chez Gallimard, tiré de faits irréels. Le héros est un narrateur. Il faut dire que vos confrères, les auteurs, les écrivains en prennent pour leur grade. Il y a beaucoup de railleries contre eux. Vous montrez leur narcissisme, leur égocentrisme. Et il y a par exemple cet écrivain fictif, Benoît Clerc, qui est l'inventeur de la passion et du deuil que nul n'avait éprouvé avant lui. Ça, c'est une réflexion du héros. Il y a aussi Neville, qui est maintenant un de ces auteurs qui aiment tant publier et si peu écrire. Parce que c'est vrai, en fait, on veut le statut d'écrivain, mais on veut pas le côté laborieux et la sueur.
Oh ben je peux pas dire ça. Enfin c'est pas. Mais je beaucoup. Peux pas en faire une généralité, mais bon ça peut. On peut en croiser, oui effectivement.
Alors vous vous moquez aussi de cette mode d'écrire un mot hyperbolique sur tant de couvertures de livres comme bouleversant.
Ouais.
Mais on a vidé le langage de son sens. Comment est-ce qu'on fait pour dire aujourd'hui que quelque chose est réellement bouleversant?
Ben oui, justement, mais c'est l'objet de ce passage. C'est-à-dire, on essaye de trouver des équivalences. On va se dire, ah ouais, on a un peu, effectivement, démonétisé le bouleversant, donc il va falloir qu'on passe dans pas longtemps au sublime. Et donc, voilà. Et après, il y a ce passage, effectivement. Mais ça, moi, ça me... qui est marqué bouleversant sur un bouquin, ça, je me dis, bon, ok.
Une claque.
Je sais pas.
Vous faites aussi allusion au lecteur de sensibilité. Sensitivity reader, en anglais, je crois, qui font une littérature pasteurisée. Comment défendre encore le fait que l'art ne doive pas être moral à une époque où il semble que tout doive l'être, même la fiction?
Oui, mais là, c'est pas la 20e heure qu'il faut, c'est la 25e qu'est la 30e heure, là, parce que c'est énorme. Enfin, je veux dire, énorme. Je veux dire, si... voilà, si la littérature ne dérange pas, si elle ne bouleverse pas, mais en étant déstabilisante, et contre son époque, etc. À quoi ça sert, quoi? À quoi sert la littérature? Voilà, c'est ça. Et puis lui se demande, parce que lui le dit d'ailleurs. Il dit, je me suis beaucoup planté parce que j'ai beaucoup publié de... Alors, il fait exprès d'utiliser un terme qui est « feel bad ». Non, il ne faut pas compter sur lui pour publier des « feel good books ». Il a publié plutôt des « feel bad ». Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, s'il faut interroger son époque, ben on le fait avec virulence et on le fait avec extravagance. Et je pense, moi, que c'est le rôle du roman que d'aller vers le l'impensable. Enfin, je veux dire... comment dire ce bouquin pourrait dire on pourrait la question ce serait de se dire et si what if et si c'est-à-dire et si c'était la fin. Je veux dire, on n'a pas envie de dire ça, on n'a pas envie de le penser, mais un roman peut essayer de se poser la question et si c'était la fin de la littérature. Et puis, c'est pourquoi pas. Enfin, c'est un bouquin, on le lit pas, mais c'est, et voilà. Alors, on va dire, oui, de tout temps, il y a eu ceci, cela. Et puis, à un moment donné, on peut se dire aussi, et si c'était la fin? Et comme toute la SF des années 50, le roman de SF des années 50 disait, et si la machine prenait le pouvoir sur l'intelligence humaine? Ça, c'était il y a 60 ans qu'on posait la question, le « et si » de l'époque, Ray Bradbury et tous les Asimov, etc. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Il y a des G7 qui se réunissent pour essayer de se dire « ah, la machine va-t-elle nous contrôler ?»
Ray Bradbury, un petit mot sur lui, parce qu'il a été très important dans vos lectures.
Très, ça a été. Alors là, pour le coup, oui, c'est une lecture d'enfance qui m'a bouleversé.
Les Chroniques martiennes.
Oui, Chroniques martiennes, ouais. Chroniques martiennes, qui aujourd'hui, quand on le lit, c'est comme si on lisait le journal. Hein. Enfin, je veux dire, il ne parle que de choses dont on parle aujourd'hui. Hein. Y a-t-il un plan B, une planète B? Qu'est-ce qu'un extraterrestre? Il y a même la description d'une maison hyper connectée. On est dans les années 50. Hein. Il y a une maison hyper connectée. Les habitants ont fui et la maison vit toute seule. Elle vit complètement toute seule parce qu'elle est connectée. Il écrit ça dans les années 50. Voilà. Mais aujourd'hui, on peut aussi se dire ah, et si.
Alors, à un moment, justement, le héros, cet éditeur, se dit, et si on faisait une collection, non pas de dictionnaires amoureux, mais de dictionnaires haineux? Oui. Et là, cette réflexion, le ressentiment exalte les plumes. Oui. Et ça m'a amusé parce que dans un portrait chinois pour l'Express, on vous demande, Tonino Benacquista, quel est votre gros défaut? Et vous dites, la rancune.
Oui.
Je suis très indulgent avec les rancuniers.
Oui, quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? La rancune, ouais. Oui, je dois être un peu comme ça. Je pensais pas en parler ce soir, mais je suis effectivement un garçon très rancunier. Non, mais je trouvais ça amusant de se dire, bon, ben voilà, le dictionnaire haineux, je pense qu'il y aurait beaucoup de succès, ouais. Enfin,
oui, c'est sûr. Beaucoup de lecteurs aussi. Alors, vous montrez aussi le concours victimaire qu'il y a entre certains livres publiés aujourd'hui. Bon, c'est assez amusant quand même, parce que c'est « Je suis plus victime que vous autres, non c'est moi, mon père est alcoolique et ma mère dépressive, mon institutrice de CM2 m'a humilié, et ça se termine par « J'ai du psoriasis ».
Oui, mais vous qui êtes une lectrice extrêmement attentive, vous avez remarqué qu'à un moment donné, parmi cette liste où je suis assez sarcastique, on dit « Mon père est alcoolique et ma mère dépressive. »
Oui.
Ben, c'est le bouquin que j'ai écrit. J'ai écrit un bouquin sur mon père alcoolique et ma mère dépressive.
Mais est-ce que c'est pas finalement le bouquin de tous les écrivains?
Je l'ai fait. Porqué Miseria, où je raconte un peu cette histoire de parents qui n'était pas facile. Bon, donc je m'inclus quand même dans le truc. Hein. Voilà.
Mais ça, on le sent.
C'est pas que les autres. Hein. Attention.
Ah non,
c'est
mais
pas...
on sent que vous ne prenez pas au sérieux dans ce livre.
Oui. Enfin là, je me suis pris au sérieux en parlant de mon père alcoolique et de ma mère dépressive. Mais donc je m'inclus dans le truc aussi. À un moment donné, j'ai chouiné aussi.
Bon, en tout cas, moi, j'attends quand même que les livres Requiem pour un boomer et Au boomer des dames paraissent avec impatience, parce que vous avez ces idées-là dans le livre. Et vous décrivez un bureau d'écrivain avec une photo d'Alfred Jarry. À quoi ressemble le vôtre?
À cette photo, elle existe, ouais. Elle existe, je l'ai chez moi.
Elle est sur votre bureau?
Ouais. D'autant que, voilà, je me suis aperçu que Jarry avait son adresse à 200 mètres de chez moi. Et quand je vois son portail, je me dis, mais comment faisait-il pour rentrer son vélo dans cette boulevard Port-Royal? Enfin, je veux dire, c'était complètement dingue. Mais moi j'ai un bureau qui est très ordonné, très, très, voilà, très maniaque. Deux écrans, pas de livres, parce que je n'ai pas de bibliothèque.
Vous n'avez pas de bibliothèque?
Ah non.
Alors ça, c'est un scoop.
Ah non, j'ai pas de bibliothèque, non.
Attendez, chez vous?
Non.
C'est pas vrai.
Enfin, si, j'ai mes bouquins, parce que je vais pas les jeter non plus.
Ah, mais les vôtres.
Mais je n'ai pas de bibliothèque, parce que je... Non.
Mais pourquoi?
Parce que je... Un peu comme il est dit dans ce bouquin, d'ailleurs, j'achète des bouquins, je les lis, et je les dépose sur un banc, pas loin de chez moi.
Ah oui, d'accord. Bon, ça va, vous êtes absous.
Non, voilà. Non, mais j'ai toujours 2-3 romans que je garde, mais vraiment, c'est le maximum.
Il cinema italiano si arricchisce di un altro autentico capolavoro, La strada. Raramente lo schermo ha raccontato con tanta intensità e tanta efficacia una storia più nuova e più coraggiosa. La storia di Gelsomina e Zampanò. Una storia che ricorderete sempre con profonda commozione.
Tonino Benacquista. Anna Christophe, vous ne partagez pas vraiment de culture commune en famille, sauf La Strada de Fellini.
Sauf La Strada, ouais. La Strada, c'était notre rue à nous. C'est franchement... Moi, je comprenais pas... Mes frères et sœurs comprenaient évidemment la langue. Moi, je la comprenais pas. Il y avait des sous-titres. J'avais ma sœur qui lisait le français beaucoup plus vite que tout le monde dans cette famille. Donc, elle lisait à haute voix les sous-titres pour que je puisse comprendre. Et puis, on entendait cet air de trompette et puis tout le monde pleurait dans la... C'était pas Fellini. C'était pas... On savait pas qui était Fellini. Mais on savait qui était Gelsomina et on savait qui était Zampano. Voilà.
À un moment, dans Tiré de faits irréels, l'éditeur s'exclame avec admiration « Ah ça y est, c'est lui, l'homme qui a lu L'homme sans qualité de Musil ». Alors j'ai envie de vous poser la question, avez-vous lu L'homme sans qualité de Musil ?
Non, non. Non, et ça reste une citadelle à prendre, quoi. C'est-à-dire, non, bien sûr que non.
Vous avez lu La Recherche, ça
ouais.
Oui.
Mais c'est... Non, mais ça fait partie des bouquins, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je ne lis que des classiques. Je lis très très peu de... Ben je lis pas de littérature contemporaine, pour vous dire. Je lis les classiques que je n'ai pas lus, que je n'ai pas lus à l'époque. Donc, je vais de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre, hein, c'est pas compliqué. Et L'homme sans qualité fait encore partie... Mais par exemple, je n'ai jamais lu Rabelais. Et je sais que c'est au programme dans peu de temps. Et L'homme sans qualité, là, le jour, ce jour-là, je pense que ce sera un jour solennel. Là, ça sera entre lui et moi, et ça prendra le temps qu'il faut.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, feu follet, elfes, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Tonino Benacusta, c'est votre premier choix musical, Jacques Higelin, Champagne, et vous connaissez toutes les paroles par cœur.
Oh bah oui, parce que ça, c'est juste, c'est une merveille. Enfin, c'est... Comment dire, je me souviens de la sortie de l'album, c'était un double album qui était en deux parties, il y avait Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres. Et c'était deux albums qui étaient sortis à quelques semaines d'écart. Et puis il y a eu cette espèce de chef-d'œuvre qui n'avait rien à voir avec Higelin. C'est sorti comme ça, enfin je veux dire, voilà, on a découvert ce morceau. Et puis voilà, quand on écrit des romans, on se dit, voilà, une chanson, voilà, cette rêverie démoniaque. Comme ça, jusqu'au bout de la nuit, bah quoi bon écrire un roman, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Il n'avait pas besoin. Il avait un tel talent de conteur, et puis alors, le travail des paroles, c'est-à-dire que tout est dans la dissonance, tout est dans l'allitération, Lutin, Luciole, Feu Follet, Elfe Faune, Zéphar Fadet, Ephraim et Grand Carnassier. C'est magnifique. Pour moi, c'est comme certains passages de Victor Hugo, quoi, écrit un peu avec cette malice et cette érudition. Et voilà. Mais c'est parce que aussi j'ai beaucoup d'affection. Je dis affection plus qu'admiration. J'ai de l'affection pour les paroliers, pour les gens qui savent écrire des paroles. Moi, c'est un truc que j'aurais adoré faire, mais que je ne sais pas faire et que je ne ferai jamais. Ça, c'est peut-être un regret. Mais quand j'ai eu cette chance de rencontrer Higelin et d'avoir une longue conversation avec lui, on a parlé essentiellement de paroliers et de paroles. Et puis voilà, c'est là où voilà, il m'a évoqué longuement son maître. Bon, qui était donc Trenet, son rapport à Trenet, aux paroles de Trenet, il m'a raconté des choses magnifiques. Et voilà, je veux que ce soit Bachung ou d'autres, enfin je veux dire les paroliers de Bachung. Voilà, il y a quelque chose moi qui me touche dans ce travail de parolier quoi. Bah alors le mélodiste effectivement est un génie, mais voilà.
You can't always get what you want. Les Rolling Stones.
Ouais.
Pourquoi bon choix?
Non, mais là, c'est parce que c'est en. Enfin bon, non seulement, voilà, les Stones, voilà. Les Stones, c'est les Stones. Mais par rapport à Thierry de Fézy réel, ce roman se termine sur des paroles des Stones. C'est-à-dire que. Mais sans citer le morceau. C'est qu'à un moment donné, le personnage entend des paroles de chansons. Alors, je ne cite pas ce morceau des Stones, et en fait, il comprend vraiment ce que disent les paroles. Et puis, c'est les paroles d'un grand philosophe, quoi, qui est Mick Jagger, un de mes philosophes préférés.
Ben oui.
Qui dit que, voilà, c'est tout simple, mais voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais parfois, quand on y regarde de plus près, on voit que la vie vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin. Et c'est la position dans laquelle est le personnage à la fin, et il comprend ça.
La fin est très inattendue d'ailleurs, je ne l'arrive évidemment pas. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi l'exposition sur le mur de Berlin à la Cité de l'Architecture à Paris.
Je suis très attaché au mur de Berlin.
Et il est très attaché à vous aussi.
oui, enfin bon, je peux en parler longtemps, mais si je devais vous très modestement vous résumer l'année 1961.
Allez-y.
En quelques mots.
Oui.
Le mur de Berlin, Spider-Man, Barack Obama et moi.
Ah vous ?
Voilà, c'est 1961.
Ah oui ?
Oui.
Très bien.
Voilà.
C'est étonnant.
On est tous nés en 1961.
Ah oui, d'accord. Je ne comprenais pas.
Oui, voilà, on est tous nés en 1961.
Certains de vos admirateurs disent que vous êtes un as du second degré, un as de l'humour, et qu'en même temps, vous ne pouvez être cela que parce que vous avez un fond dépressif ou vous avez été déprimé à des moments de votre vie. C'est une fuite.
Je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours la fameuse mythologie du clown triste, mais je ne suis pas spécialement triste. Bon, je suis peut-être un peu dépressif, mais je ne suis pas le seul dans ce boulot-là. Il n'y a pas que les comiques qui sont dépressifs. Un artiste est toujours plus ou moins dépressif. Alors, j'en sais rien.
Vous êtes plus poète qu'engagé.
Je n'en pas. Je suis un burlesque, un déconneur, moi. Je suis un amuseur.
C'est Gottlieb qu'on entend au micro de Philippe Lefebvre en 2005 sur France 2. Tonino Benacquista, il a été important pour vous?
Ah oui, il a été fondamental. Fondamental. On parlait de culture populaire là tout à l'heure. C'est vrai que la BD circulait quand j'étais gosse. Elle circulait comme ça dans la rue, etc. Et il y avait les rubriques à bras, il y avait les super-héros, il y avait peut-être des Spirou et les choses. Mais il y avait aussi Pilote. Et puis là, Pilote, c'est un festival de génie. Hein. Mais il y avait deux planches, et c'était et voilà. Et j'ai tellement appris. Et c'est une telle chance que de rencontrer Gottlieb, enfin je veux dire, de lire quand on a 10 ans, ça, voilà. Et j'espère que les gosses aujourd'hui ont accès à Gottlieb, même si c'est pas un nom comme ça très, qui circule beaucoup. La première fois que je me suis fait une idée de ce que pouvait être l'humanisme. C'est en lisant Gottlieb. Ouais, c'est là. C'est là, dans sa gravité, dans son... les réminiscences de son passé. Ouais, là, pour le dire, pour employer ce terme galvaudé, j'étais bouleversé.
Vous, vous avez un nez... un nez très grand. Très.
C'est tout?
Mais...
oh non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire... oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?
Jean-Pierre interprète Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, et c'est ce livre, Tonino Benacquista, qui vous a fait comprendre ce qu'était le style.
Oui. Oui, oui, vraiment. Vrai. J'en ai un souvenir vraiment, je dirais presque physique, parce que je me souviens des circonstances précises. Et on était, je sais plus, je devais être en cinquième ou quelque chose comme ça. Je sais qu'au programme, on étudiait Andromaque. Et alors bon, en cinquième, c'est costaud quand même. Hein. Le schéma narratif d'Andromaque, le schéma amoureux, il est tordu quand même. Hein. Et bon, je me souviens, je m'étais isolé dans un... ce qu'on appelait le CDI à l'époque, je suppose.
Bien
que
sûr,
ça existe
oui.
En genre encore, mais je pense qu'on le crée à ce moment-là, le CDI. Il y avait quelques bouquins sur des étagères, au lieu d'aller en permanence, j'étais allé dans cette salle, et puis je me suis dit, il faut que je paraisse occupé, parce qu'il y a un type qui est là, qui surveille plus ou moins, donc il faut que je prenne un bouquin, que je l'ouvre. Alors j'ai pris le plus petit possible, et c'était une pièce de théâtre. Mais l'ennui aidant, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. Et là, tout. La tirade du nez, etc. Je me suis dit, c'est ça. La flamboyance, elle est là, quoi. C'est ça, le style.
Donc, par accident.
Ouais, alors après... Ouais. Enfin, accident. J'espère que ce texte me serait apparu, quoi qu'il arrive, un jour. Mais en tout cas...
Votre découverte de ce
en
texte,
tout cas, ouais, la découverte était comme ça. C'était vraiment... J'ouvre le bouquin. Et puis, je me dis, oulala. Je fais semblant de le lire. Et après, je le lis pour de bon.
Dans le portrait chinois que vous avez donné à l'Express en 2011, on vous demande une rencontre que vous espérez et vous dites « Celui ou celle qui arriverait à me convaincre que la vie est bien moins angoissante que je ne me l'imagine. » Et j'aimerais savoir comment vous l'avez apprivoisé, cette angoisse, depuis le temps, parce que dans Porca Miseria, vous écrivez « Les mots français que j'entends, ma mère prononçait le plus souvent sont cholestérol et contrariété.
Ouais. »
Contrariété l'emportant, évidemment, sur cholestérol.
Oui, c'est vrai, oui.
Alors, vous en êtes où de l'angoisse? Vous avez 40 secondes pour répondre.
Oh, l'apprivoiser, pas jamais. Mais c'est bon, évidemment, quand Gottlieb en parle, évidemment, ça a de la gueule, mais je pourrais reprendre un peu à mon compte ça, quoi.
Vous êtes dépressif comme tous les artistes?
Non, dépressif,
selon
non, je suis pas du tout dépressif. Je suis un anxieux de naissance, je pense. Mais je l'ai prouvé, quand même. Je l'ai prouvé par 20 ans d'agoraphobie, où je n'ai pratiquement pas pu sortir de chez moi pendant 20 ans. Et il a fallu que j'apprivoise non seulement cette angoisse, mais en même temps le dehors. Il a fallu que je retourne dans la rue.
Je dois rendre l'antenne, mais alors là, vraiment, c'est un magnifique cliffhanger, comme disent les anglo-saxons. Merci beaucoup, Tonino
Benacquista. Merci à vous,
et puis
dans 12 ans maintenant.
Bah, bien sûr, je vous attends dans 12 ans, je serai là.
Merci à vous.
Votre nouveau livre, tiré de faits irréels, vient de paraître chez Gallimard. Vous serez les 30 et 31 mai à Lille-sur-la-Sorgue pour le festival Lire sur la Sorgue, le 13 juin à Port-Grimaud pour Escapade, et le 27 juin à la Garenne-Colombes pour la Nuit Blanche des Livres. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfoise, Betty Algray et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Jérôme Ragano. À demain, 20h10.